Donc, on va poursuivre l'étude d'un livre de Marc. On a pas mal de choses à voir aujourd'hui. J'espère qu'on va arriver à tout faire parce que c'est vraiment très intéressant et très riche. On va juste rappeler rapidement, pour essayer de gagner déjà un peu de temps, ce qu'on avait vu la dernière fois. On avait vu plusieurs épisodes, plusieurs séquences de la vie de Jésus où en fait Marc décrit les faits sans forcément. De faire de commentaires, mais en fait en présentant les scènes, il suggère les vérités, les enseignements qu'on peut tirer, avec aussi beaucoup de références à l'Ancien Testament qui sont pas forcément toujours visibles, mais qui sont bien là. On a vu que le rythme de la vie de Jésus, le rythme du récit est très intense. On a vu qu'il y avait beaucoup de déplacements. On a vu qu'il y avait la foule qui se rassemblait dès que Jésus apparaît. Et donc, on a vu toute une séquence où le but était de révéler l'autorité du Messie, de Jésus-Christ, notamment son autorité sur les éléments et la nature, lorsqu'il a calmé la tempête, sur les forces des ténèbres, lorsqu'il a guéri le démoniaque. Et on a vu aussi, enfin, on a commencé à voir son autorité face à la maladie et à la mort. Avec la fille de Jaïrus et la femme à la perte de sang. Et nous avons vu aussi comme une sorte de fil rouge que Marc est en train de nous montrer, toujours de manière assez discrète, le rapport entre la foi et la crainte. Au lieu de susciter la foi chez les personnes concernées, les œuvres du Seigneur peuvent provoquer de la crainte et de la frayeur. Et nous l'avons vu donc chez les disciples lorsqu'ils étaient dans la barque, lorsqu'il a calmé la tempête, chez les habitants du pays des Gadaréniens, lorsque Jésus a délivré le démoniaque, et nous allons donc continuer de voir ça ce soir. Donc on reprend là où on en était, on était en train de lire le récit où Jaïrus se présente devant Jésus parce que sa fille est malade, et donc il y a cette scène aussi avec la femme à la perte de sang. Donc est-ce qu'on peut relire Marc 5, versets 21 à 43, si deux ou trois personnes veulent lire, s'il vous plaît.
Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement.
Car elle disait, si je touche ne serait-ce que ses vêtements, je serai guérie. Et aussitôt son flux de sang tarit. Et elle connut en son corps qu'elle était guérie du fléau. Et aussitôt Jésus, connaissant en lui-même la puissance qui était sortie de lui, se retournant dans la foule, dit, qui a touché mes vêtements? Et ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait tout alentour pour voir cela, celle qui avait fait cela. Et la femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint et se jeta devant lui et lui déclara toute la vérité. Et il lui dit, ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix et sois guérie de ton fléau.
Il parlait encore quand des gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent, ta fille est morte, pourquoi déranger encore le maître? Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue, n'aie pas peur, crois seulement. Et il ne laissa personne l'accompagner sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit du tumulte, des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous ce tumulte et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquaient de lui. Alors, il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, il entra, là où l'enfant était couché. il la prit par la main, Talita Kumi, ce qui signifie « jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent aussitôt remplis d'un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne le sache et demanda qu'on donne à manger à la jeune fille.
Voilà, merci. Donc on voit que dans ce récit, on avait vu qu'il y avait vraiment deux histoires imbriquées les unes dans les autres. Et on a parlé de la technique du sandwich utilisée par Marc. C'est une image en fait pour expliquer que souvent, très souvent, et Marc est le seul à utiliser cette technique aussi fortement dans les évangiles, en fait, il y a une histoire dans laquelle une autre histoire vient s'intégrer. Donc, on avait vu que, pour schématiser, la première tranche de pain, c'est l'histoire où Jaïrus vient solliciter Jésus parce que sa fille est malade. La tranche de jambon, mais c'est la séquence avec la femme atteinte de sa maladie, de la perte de sang. Et ensuite, la deuxième tranche de pain, mais c'est la suite et la fin de l'histoire avec la fille de Jaïrus et sa résurrection. Et donc, on avait dit en fait que dans ce processus, c'est toujours l'histoire du milieu qui est la clé de compréhension et d'enseignement essentiel. Donc, pour revenir sur ce qui se passe en premier, on voit que Jaïrus, il nous est présenté comme chef de la synagogue locale, et sa mission était donc d'organiser, de gérer les cultes autour de la vie de la synagogue. En général, les personnes qui occupaient cette fonction, souvent à cette époque, étaient des opposants à Jésus, puisqu'ils voyaient dans son ministère et la popularité qu'il avait une menace à éliminer. Mais lui, Jaïrus, est en train de vivre un drame dans son foyer, puisque sa fille est malade. Il explique qu'elle est à l'extrémité avec un mot qui veut dire en fait à l'article de la mort. Donc c'est vraiment une maladie dont on n'a pas trop de détails, mais qui est grave et puis qui est vraiment sur le bout, sur la fin. Et donc en fait, il laisse de côté tout le protocole ou les fioritures liées à sa fonction. Il se jette littéralement au pied du Seigneur. Et on voit vraiment que c'est un homme désespéré. Il se dit que la venue de ce personnage, dont on dit qu'il fait des miracles, représente peut-être la dernière chance pour eux et pour sa fille. Il pressent que Jésus peut avoir la capacité de guérir sa fille si en fait il a, parce qu'il a entendu des choses sur cet homme, et il dit impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. En fait, il a déjà un petit peu anticipé ce que Jésus pourrait faire, une méthode pour la guérir. Et c'est vrai que Jésus a souvent imposé les mains pour guérir, mais il s'était déjà préparé dans sa tête un scénario. Et donc, devant le désespoir de cet homme, Jésus accepte de le suivre et de se rendre chez lui, accompagné de toute la foule qui est autour, hein, et qui s'associe en fait au désespoir de cet homme. On voit que vraiment, tout le monde est touché par ce drame. Donc ça, c'est la première histoire. Et puis donc, il y a la scène qui est coupée par un petit mot, or. C'est vrai que Marc aurait pu raconter cette histoire dans une autre séquence et prendre les récits des uns après les autres, mais il est très important qu'il reste à cette place, parce que ce qui va se passer avec cette femme est vraiment l'élément décisif. Donc qu'est-ce qu'on apprend de cette femme? On voit que elle souffre d'un mal extrêmement gênant, déjà sur le plan physique, qui l'oblige en fait à ne pas pouvoir vivre librement. C'est ce qui explique qu'elle a vraiment tout tenté pour essayer de se soigner, sans succès jusque-là. Et rajouter à toutes ces difficultés de commodité, ces difficultés physiques, certainement aussi la fatigue qui était liée à son état, il est surtout question aussi de son impureté. Puisque cette femme a une perte de flux, on peut lire ce qui est mentionné dans Lévitique 15, 25, si quelqu'un veut le lire.
La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours, hors de l'église, à l'époque régulière, où le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impure tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle.
Voilà, donc on voit que cette femme, depuis 12 ans, est dans une situation d'impureté. Donc ce qui veut dire qu'en plus de la difficulté de cette maladie, elle est coupée complètement de la société puisqu'elle est obligée de se tenir à l'écart. Et on voit qu'il y a plusieurs lois, notamment pour les hommes aussi. Dès qu'en fait il y a une perte de flux, on est impur et on doit se tenir à l'écart. Ce n'est pas réservé aux femmes. Et donc au verset 28, elle dit « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » Elle dit « Je serai guéri. » Elle ne dit pas « Je vais tenter de toucher son vêtement pour voir si ça marche. » On voit déjà qu'elle prouve une forme de foi. Et une foi qui est ferme. Et elle a vraiment un objectif. Elle est convaincue que son salut passe par ce contact avec le Seigneur. Et Jésus, lorsqu'elle le touche, il stoppe la scène pour figer ce moment. Et pour savoir qui l'a touché, il sait très bien qui l'a touché, mais c'est surtout pour arrêter la scène. Et c'est à ce moment-là qu'elle rentre dans la crainte, et même dans la frayeur. On voit qu'au verset 33, il est écrit « La femme effrayée et tremblante ». Là, elle devient effrayée et tremblante. Cette crainte prouve que cette femme savait que ce qu'elle faisait en touchant quelqu'un, c'était quelque chose de répréhensible. Et donc, en fait, au final, on peut se dire, mais finalement, elle est comme les autres personnages, elle aussi, elle ressent de la crainte. Oui, c'est vrai, mais à la différence des autres, sa foi a été plus forte que sa crainte. Et ça nous montre que, c'est vrai que parfois, on peut être effrayé, c'est pas interdit d'avoir peur d'être effrayé, mais ce que ce passage nous montre, c'est que la foi doit être plus forte en nous. Et c'est la foi qui doit nous dominer nos actes, et pas la crainte. Et en fait, cette femme a peur de la réaction de Jésus, mais en même temps, elle prouve par son geste qu'elle a compris qui est celui vers qui elle s'avance. Elle sait que Jésus est le Messie, et elle a compris qu'il a autorité sur l'impureté. Et c'est ce que nous apprend ce passage aussi. Et Jésus, lorsqu'il voit ça, il va tout de suite chercher à la rassurer. Parce qu'en fait, il est émerveillé par son acte de foi. Se dire, en fait, elle a peur de ma réaction, mais elle a cru que je pouvais la guérir. Elle a cru que j'étais au-dessus de son impureté. Parce que cette femme, elle sait que normalement, tout ce qui est souillé contamine ce qui ne l'est pas. Et ce qui est pur ne peut pas rendre pur ce qui est impur. C'est l'impureté qui est contagieuse. Et en fait, elle a quand même compris que Jésus, il pouvait la rendre pure, enfin que ça pouvait fonctionner dans l'autre sens. On peut prendre un passage pour comprendre bien ce que l'on voit dans Agé 2, versets 11 à 13. Si quelqu'un veut le lire, c'est une question que le prophète, une question technique, on va dire, que le prophète pose au sacrificateur.
Par l'Éternel des armées, propose au sacrificateur cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée, et qui touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? Les sacrificateurs répondirent non. Et Agé dit, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles souillées?
Voilà, en fait, là, on voit dans quel sens va l'impureté. En fait, c'est vraiment un principe qui, à l'époque, était dans l'esprit de tout le monde, en fait. Tout le monde, pas que les sacrificateurs, mais tout le monde vivait avec ses règles de pureté, d'impureté. Il fallait pas faire ça parce qu'on allait se rendre pur. Voilà, il y avait toutes ces règles-là. Et ça allait vraiment dans un sens. En fait, elle aurait dû, en allant toucher le Seigneur, elle aurait dû le rendre impur. Mais elle a eu la foi qu'il pouvait quand même la guérir. Et en fait, ça c'est vraiment la clé de tout ce que nous sommes en train de voir. C'est cette foi-là, en fait, que le Seigneur recherche, et qui est à rechercher pour nous aussi. Et lorsqu'au verset 35, on revient en fait sur la scène de Jaïrus, après cette scène, les choses se compliquent, donc il y a une grosse désillusion, puisqu'il semble que ce soit trop tard. La mort est apparue dans la maison de Jairus, et c'est donc vraiment une nouvelle désolante qui arrive. Tout le monde est en train de baisser les bras, verset 35, comme il parle encore sur l'heure chez les chefs de la synagogue, des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Et en fait, c'est une nouvelle épreuve de foi pour Jairus. Est-ce qu'il va garder confiance? Franchement, à sa place, quand une nouvelle comme ça tombe, je pense que j'aurais perdu espoir. Surtout qu'il y a un autre aspect qui peut-être nous échappe, mais si sa fille est décédée, elle devient impure. Et c'est la raison pour laquelle le père pense qu'il ne va pas aller vers sa fille, il va se rendre impur. Parce qu'on ne touche pas un mort qui n'est pas de sa famille. Ça, c'est encore une loi que tout le monde connaissait très bien à l'époque. Mais donc, au verset 36, Jésus dit, il dit, ne crains pas, crois seulement. Et j'ai pu s'en tenir compte, mais je ne le retrouve pas. Mais Jésus, quand il a entendu ces paroles, dit au chef de la synagogue, j'ai dû le lire dans une autre version. Vous allez peut-être s'en tenir compte.
Luc 8, j'ai dû s'en tenir compte de ça.
Ah, c'est dans Luc 8, pardon.
Luc 8, 50.
Non, mais même Marc.
D'accord. Et en fait, il lui demande, on a Luc 8, 50 aussi, hein.
Oui.
Pour dire, les complémentaires.
Mais Jésus ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée.
Voilà, ne crains pas. Ne crains pas. Ce que nous venons en fait de voir avec la femme à la perte de sang, nous donne ici la clé. Ne pas craindre, garder la foi. En fait, le Seigneur va même aller plus loin avec sa fille que ce qu'il a fait avec la dame à la perte de sang. Et donc, c'est vraiment pour ça que ce passage est intégré là. En fait, il est en train de dire à cet homme, mais regarde ce qui vient de se passer. Une dame impure est devenue pure. J'ai la capacité de rendre pure. Et c'est pour ça qu'il lui demande vraiment, qu'il le pousse à garder la foi. Et on voit que il y a d'ailleurs, dans ces deux histoires aussi, des parallèles à faire. On a vu que la jeune fille et la femme, donc elles sont impures, Jésus va avoir un contact avec ces deux personnes. La femme va le toucher son vêtement, et Jésus, lorsqu'il vient, il ne va pas lui imposer les mains, il va lui prendre la main. C'est ce qu'on avait vu aussi la dernière fois, il va toucher quelqu'un qui est impur, puisqu'elle est décédée. Et donc, on voit là, ce passage-là atteste que Jésus donc, a autorité sur l'impureté, sur la maladie, et bien sûr, sur la mort. Donc ça donne encore ici une vérité sur qui il est. Il ne peut être que Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut avoir cette capacité-là de rendre pur. Puisque normalement, l'impureté va dans l'autre sens. Des petites choses aussi, on voit que la jeune fille a 12 ans et la femme est malade depuis 12 ans. Voilà, il y a des similitudes comme ça entre ces deux histoires qui sont vraiment liées. Voilà, pour ce passage, on va enchaîner du coup avec... Le chapitre 6, on va lire Jésus chez les siens, si vous voulez lire Marc 6, 1 à 6.
Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donné. Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposant les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité.
Voilà donc pour cette séquence de Jésus qui revient dans son village natal, Nazareth. Donc il ne vient pas, ce coup-ci pour passer du temps avec ses proches, pour se ressourcer, ce n'est pas une visite familiale. Là, il vient vraiment dans le cadre de son ministère terrestre, et pour donc accomplir toutes les choses qu'il fait ailleurs et apporter la bonne nouvelle et attester de son identité au travers de tous les miracles qu'il peut accomplir et de son enseignement. Très vite, en fait, quand on lit ce passage, on remarque qu'il y a une différence par rapport aux autres séquences, c'est que la foule semble absente. On ne voit pas la foule se rassembler autour de lui. Partout ailleurs, le Seigneur n'a même pas le temps de poser le pied par terre, que tous les gens sont là. Mais donc, on remarque ça. On voit qu'au verset 2, il attend le sabbat pour commencer à enseigner publiquement dans la synagogue. Mais en fait, on voit là, pareil, qu'il n'y a pas trop d'interaction, comme si la mayonnaise ne prenait pas. Et on voit que, on comprend en fait que c'est pas quelque chose qui vient de Jésus. Il n'est pas moins percutant ou moins performant que dans les autres villes. Il n'est pas non plus sur la réserve, comme s'il ne voulait pas se livrer à eux comme il a fait ailleurs, puisqu'en fait, on peut lire au verset 2, ils disent d'où lui viennent ces choses, d'où lui vient cette sagesse et ces miracles. Ça veut dire qu'en fait, il constate bien qu'il a des choses différentes en lui, qu'il a une sagesse toute particulière et qu'il fait des miracles. Donc il le constate, on voit que Jésus n'est pas différent chez lui que ce qu'il peut faire ailleurs. Mais c'est vraiment donc la réaction de la population qui est différente, justement parce qu'ils le connaissent, hein, c'est ce qu'il dit. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude? En fait, ils connaissent tout le monde. Et donc, au lieu de se laisser toucher par ce que Jésus est en train de faire au milieu d'eux, la réflexion en fait, des habitants de Nazareth va les ramener à son statut social, en fait. Ils vont se dire, mais en fait, on le connaît, c'est vraiment le charpentier du coin, il n'a pas fait d'études. On connaît tous ses parents, sa famille, on le connaît depuis qu'il est tout petit. Vous vous rendez compte que peut-être que Jésus, il leur avait fait des demi de charpente, enfin, j'ai imaginé ça, c'était pareil. Il avait travaillé chez eux, il avait fait des choses, donc tout d'un coup, on peut se dire que, c'est vrai, il doit y avoir de l'orgueil, de la jalousie, de se dire comment cet homme peut venir se présenter comme étant au-dessus de nous. Et en fait, on peut quand même comprendre, enfin moi, en me mettant à leur place, on peut se dire qu'ils avaient sans doute une difficulté supplémentaire d'arriver à discerner qui il était vraiment. On voit le même type de réaction chez les frères de Joseph, hein, qui ont du mal à accepter qu'ils puissent avoir une destinée un peu différente de la leur. Il y a aussi l'exemple de Eliab avec son frère David, hein, qui ne comprend pas comment le cadet, même le Benjamin, part à la guerre alors que lui était censé assurer ce rôle normalement. Donc vraiment, il devient une occasion de chute. C'est comme un piège en fait pour eux. Mais ils auraient quand même pu croire au travers de tout ce que Jésus faisait. Et en fait, donc, Jésus, il sait tout ça, verset 4, il dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Visiblement, c'était un dicton connu à l'époque et qui devait être tiré de la façon dont les prophètes avaient été traités dans l'Ancien Testament. Et du coup, mais, en disant cette phrase, Jésus rend ce dicton encore plus célèbre, puisque c'est quand même l'une des prophètes dans son pays, tous les gens, même nos chrétiens, l'utilisent. On voit qu'au verset 5, il est écrit « Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Il s'étonnait de leur incrédulité. » Alors, pourquoi est-ce qu'il y a peu de miracles? Peut-être parce que les gens ne venaient pas vers lui, tout simplement. Il n'y avait pas d'émulation autour de sa personne. Parce que Jésus aussi attend, la plupart du temps, il attend de voir de la foi pour accomplir un miracle. Alors, ce n'est pas systématique, mais la plupart du temps, il faut que les gens aient la foi. Donc ça explique pourquoi il y a eu peu de miracles. Et aussi parce que Jésus ne veut pas se servir des miracles pour convaincre. C'est-à-dire qu'il ne veut pas rentrer dans le fait de dire « Bon, mais regardez, je peux faire quelque chose d'encore plus exceptionnel pour que vous croyez. » Non, ce n'est pas par le miracle qui veut convaincre Jésus. Le miracle est là, le miracle est une conséquence, mais pas une cause en fait. C'est pas quelque chose qu'il emploie pour convaincre, mais c'est une conséquence de la foi. Donc rapidement, deux applications que l'on pourrait retirer de cette visite de Jésus chez les Cyniciens. Si on regarde l'exemple des habitants de Nazareth, on peut se dire pour nous-mêmes qu'il faut se méfier de ne pas passer à côté de certaines vérités sous prétexte que nous croyons savoir et que nous croyons connaître. Et c'est vrai, ils avaient des avantages de connaître Jésus, ça a influencé leur discernement. Et je sais que moi aussi, j'ai parfois ce mauvais réflexe de tirer des conclusions trop hâtives parce que je crois savoir ou parce que non, mais lui, je le connais et en fait, je ne fais plus attention vraiment à ce qui se passe devant moi. Donc, ça, c'est très important de nous rappeler qu'on doit toujours rester ouvert, toujours écouter, parce qu'en fait, Dieu se sert souvent de notre entourage pour nous parler. Et le deuxième point, si on se place du côté de Jésus, c'est de ne pas se décourager si notre foi est incomprise ou mal acceptée dans notre entourage, dans notre famille, auprès de nos amis, de nos collègues. Souvent, quand on parle de Jésus, on va entendre les mêmes réactions que les Nazaréens. On dit « Oui, non, mais la religion, je connais, Jésus, je connais, les églises, j'y étais quand j'étais petit, j'ai fait ma communion, etc. etc. » Et c'est vrai que les gens s'arrêtent à ça, et on aurait envie de leur dire « Mais non, il y a quelque chose d'autre. » Et ce passage-là nous montre qu'il faut vraiment garder l'espoir, garder cette conviction de persévérer en fait à annoncer et pas se décourager parce qu'on n'est pas compris, mais savoir que le Seigneur a vécu les mêmes choses. Il a dit, s'ils m'ont rejeté, ils vous rejetteront aussi. Il a dit, gardez espoir, j'ai vaincu le monde. Donc tout ça, ça peut vraiment nous apprendre. Et il y a cette dernière phrase que j'ai un peu de mal à expliquer, où il est dit que Jésus s'étonnait de leur incrédulité. J'ai beaucoup de mal, enfin c'est pas beaucoup, mais je me questionne encore pour savoir comment est-ce que le Seigneur peut être étonné, lui qui sait toutes choses. Et voilà, en fait, est-ce que c'est vraiment étonné ou est-ce que c'est attristé? Voilà, en tout cas, il a été étonné plusieurs fois le Seigneur. Souvent, c'était en rapport avec la foi. Soit c'était pour le manque de foi, soit il était étonné de voir la foi de certaines personnes. Donc voilà, si le Seigneur doit être étonné de nous, que vraiment ce soit par notre foi et non pas par notre manque de foi. Allez, on va enchaîner donc avec Jésus.
Oui. La citation de Jésus aussi, elle ne s'applique pas que à sa famille, mais aussi au peuple juif, d'ailleurs, en Luther, en majorité.
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a tout ce volet-là de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament qui ressort ici, effectivement. Donc, la séquence où Jésus envoie ses disciples, avec incrusté dedans le récit de la mort de Jean-Baptiste, on va lire Marc 6, versets 7 à 32. Donc c'est un passage un peu lent, si plusieurs veulent le prendre, s'il vous plaît.
Jésus parcourait les villages des alentours pour y donner son enseignement. Il appela les 12 et les envoya en mission, deux par deux, en leur donnant autorité sur les esprits mauvais. Il leur recommanda de ne rien emporter pour la route, sauf un bâton. Il leur dit, « Ne prenez ni provisions, ni sac, ni argent dans votre ceinture. Mettez des sandales à vos pieds et n'emportez pas de tunique de rechange. Dans la maison où vous entrerez, restez jusqu'à votre départ. Et si, dans une ville, on ne veut ni vous recevoir ni vous écouter, partez de là en secouant la poussière de vos sandales. Cela constituera un témoignage contre eux. » Ils partirent donc et proclamèrent qu'il fallait changer profondément. Ils chassaient aussi beaucoup de démons et guérissaient de nombreux malades en les oignant d'huile.
Le roi Hérode entendit parler de Jésus dont le nom était devenu célèbre. Il dit « Jean-Baptiste est ressuscité des morts et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. » D'autres disaient « C'est Élie ». Et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait « Ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. » Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée, et que Jean lui disait « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait, et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir.
Cependant, un jour propice arriva lorsque Hérode, pour son anniversaire, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux personnalités de la Galilée. La fille d'Hérodiade entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses invités. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'était la moitié de mon royaume. » Elle sortit et dit à sa mère, « Que demanderai-je ? » Sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa aussitôt de rentrer vers le roi et lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des invités, il ne voulut pas refuser. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Quand les disciples de Jean apprirent cette nouvelle, ils vinrent prendre son corps et le mirent dans un tombeau. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'il avait enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit désert.
Voilà, merci. Alors, c'est vrai que on a encore l'impression d'avoir deux histoires, là. Et il y a bien deux histoires. Il y a l'histoire de l'envoi des disciples et il y a le récit de la mort de Jean-Baptiste. Et en fait, on peut déceler ici encore une ce qu'on appelle le sandwich, parce que Marc intègre le récit de la mort de Jean-Baptiste entre... On voit que ici, il y aurait la première tranche de pain qui serait du verset 7 au 13, l'envoi des disciples. Ensuite, la tranche de jambon au milieu, c'est le récit de la mort de Jean-Baptiste, versets 14 à 29. Et ensuite, on vient terminer la séquence avec la deuxième tranche de pain, qui est un peu plus fine pour vous, et qui clôt la séquence avec le retour des disciples lorsqu'ils sont partis en mission, versets 30 à 32. Donc, on voit que le récit de la mort de Jean-Baptiste est bien intégré dans cette séquence de l'envoi des disciples. Et comme nous l'avons vu juste avant, on va essayer de comprendre ce qu'on peut en tirer. Donc ça, c'est une interprétation de ce passage, mais je pense qu'il y a quand même des choses, des enseignements à en tirer. Et la clé de compréhension donc, représente vraiment ce récit de la mort de Jean-Baptiste. Donc, si on regarde l'envoi des disciples, on peut penser en fait que Jésus a voulu envoyer les disciples dans le but d'augmenter la diffusion, la propagation de l'évangile. Le Seigneur est en train d'accomplir des miracles, il a ses disciples avec lui depuis un moment, et pendant cette période, ben, en fait, ils ont pu apprendre, observer le Seigneur, et ils ont emmagasiné une forme d'expérience. Et donc, à présent, ils sont munis du nécessaire pour propager la bonne nouvelle, et ils sont donc équipés par le Seigneur du pouvoir de chasser les esprits impurs. C'est ce qu'on lit au verset 7. La mission de prêcher et d'enseigner est donc clairement mentionnée aussi pour eux au verset 12. Ils partirent, ils prêchèrent la repentance. On voit qu'ils oignirent d'huile beaucoup malades. Il y avait là des guérisons et donc l'huile, on ne va pas rentrer dans le détail, mais l'huile symbolise aussi beaucoup de choses avec un élément qui est associé à la guérison, qui peut être associé aussi à l'esprit de Dieu qui est là, à la bénédiction de Dieu. Et donc nous avons des détails sur l'attitude que vont devoir respecter les disciples pendant leur mission. Ils ne doivent donc rien prendre pour le voyage, pas de pain, pas de sac, pas de boulet dans la ceinture, seulement des sandales, une seule tunique. Ils doivent compter sur l'hospitalité des villageois. Et heureusement, à l'époque, l'hospitalité était vraiment très très grande. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle ils leur demandent de ne pas changer de maison. Parce que sans doute qu'ils allaient avoir des sollicitations pour venir héberger chez eux. Donc ils disent, quand vous êtes dans un village, vous ne bougez pas, vous restez là où vous êtes. Et s'ils sont rejetés, ils doivent partir et ne pas insister. Et en fait, on voit, pour résumer, que ce qui est demandé aux disciples, c'est de s'équiper du strict minimum pour vraiment dépendre de la providence de Dieu. C'est vraiment ça que le Seigneur leur demande. Et en fait, dans cette description, on flirte un petit peu avec ce qui est décrit de Jean-Baptiste dans le chapitre 1 de Marc. Le champ lexical avec la tunique, avec la ceinture, il est question aussi des sandales. Tout ça, ça commence un petit peu déjà à faire penser à Jean-Baptiste. Et en fait, le Seigneur donne aux disciples une mission qui peut aussi avoir quelques similitudes avec le rôle que Jean a joué. En préparant la venue du Messie, il leur a demandé de prêcher la repentance, d'être des ouvriers de la repentance, que les gens puissent comprendre qu'ils ont besoin de se repentir. Et donc arrive le récit de la mort de Jean-Baptiste. Nous avons donc une explication très détaillée de la façon dont Hérode Antipas, donc Hérode Antipas, ce n'est pas le même Hérode qui a tué les nouveau-nés à la naissance de Jésus, ça c'était Hérode le grand, c'était le père. Hérode Antipas est le fils, et donc c'est lui qui a fait tuer Jean-Baptiste. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il s'est opposé donc au mariage qu'il a contracté avec la femme d'Hérode Philippe, qui est le frère d'Hérode Antipas et qui vivait à Rome. Et cette femme s'appelait Hérodias, ou Hérodiade, selon une version. Donc Jean-Baptiste s'oppose à cette union. Et dans la soirée, dans le banquet qu'il est en train de faire, Hérode, il propose la moitié de son royaume à la fille de Hérodias. En fait, il n'était que tétrarque, c'est-à-dire qu'il n'était pas vraiment roi. Il n'aurait pas pu donner la moitié de son royaume puisqu'il ne l'avait pas. C'était comme une sorte de gouverneur d'une province. Et donc, Jean-Baptiste s'est opposé. Il n'avait pas peur de s'opposer à l'autorité, qu'elle soit religieuse ou politique. Il a vraiment suivi son cap. Et on voit qu'apparemment Hérode avait plusieurs entretiens avec Jean-Baptiste, puisqu'Hérode écoutait quand même ce que disait Jean-Baptiste, puisqu'on a lu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Souvent, ça veut dire qu'il devait avoir quand même des entretiens. Donc Hérode était certainement mal à l'aise de cette situation, et donc comme il avait pris cet engagement devant le banquet et qu'il se croyait roi, mais il s'est dit, bon, serment en fait, doit aller au bout, et donc il a fait décapiter Jean-Baptiste. Et en fait, pourquoi ce récit ici ? Bon, déjà parce que ça a dû se passer à peu près à cette période-là. Et en fait, on voit que Jésus est en train de lâcher petit à petit les rênes à ses disciples. Et en fait, il est en train de leur faire comprendre quel est le chemin du véritable disciple de Christ, et que ce chemin va sans doute être difficile aussi. Peut-être que Marc a souhaité ici exposer le thème du serviteur idéal, du disciple idéal. Et Jean-Baptiste représente en quelque sorte le modèle que les disciples vont devoir suivre. Nous savons que la quasi-totalité des apôtres vont mourir en martyr, comme Jean-Baptiste, et que dans leur mission, ils vont rencontrer de l'opposition, comme Jean-Baptiste. Il faudra dire des vérités qui ne sont pas toujours faciles à dire. Il faudra tenir ferme face à l'opposition, comme Jean-Baptiste. Il faudra dépendre de Dieu, comme aussi l'a fait Jean-Baptiste. Et donc Marc suggère cette idée que Jean-Baptiste est en fait un modèle à suivre. Il la suggère. Mais on voit que, par exemple, dans l'évangile de Luc, lui, il a vraiment décrit avec des paroles ce qui est dit lorsque le Seigneur a parlé de Jean-Baptiste. On peut lire Luc 7, versets 25 à 28. Voilà, je vous lis. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices, sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Donc là, c'est dit avec des mots, par les mots de Jésus. Luc rapporte les mots de Jésus-Christ sur ce qu'a été Jean-Baptiste. Et il est vraiment présenté comme le serviteur, comme le disciple idéal. Et en fait, c'est ça peut-être la clé de ce qui est dit et pourquoi ce passage est intégré à ce moment-là. Ils sont en train d'apprendre, de passer aux travaux pratiques quelque part. Ils ont eu la théorie, puis là, les disciples, ils sont envoyés aux travaux pratiques. Et voilà, voilà quel va être ce que vous allez devoir faire. Voilà la bonne attitude. Jean-Baptiste est vraiment une sorte de modèle que vous allez devoir suivre. On sait que dans Marc, il y a beaucoup le thème de la souffrance et le thème de l'épreuve. Il est possible que Marc ait été écrit à Rome dans un contexte où la persécution était très forte auprès des chrétiens. Donc Marc utilisait aussi beaucoup cela pour expliquer que, pour encourager en fait les chrétiens et dire voilà, oui c'est dur, oui il y a la persécution, mais tenez bon, tenez ferme et voilà quel est vraiment le chemin à suivre. Oui.
Excusez-moi, mais ça me donne une appréhension.
C'est-à-dire
je commence à dire à certaines personnes de nos autorités, il n'était pas permis d'eux, il y a du boulot et ça va se retourner contre nous très vite, c'est vrai.
C'est-à-dire, j'ai pas compris.
Je veux dire, dans les mœurs,
oui.
Même des personnes qui sont en autorité aujourd'hui dans notre pays.
Oui, mais ça, je pense que ça l'a toujours été.
Mais il n'était pas permis de, par exemple, de vivre avec un autre homme ou de. Quoi ? Je veux dire, on va pas être décapité, peut-être, mais bon, ça va être pas mal quand même.
C'est sûr que de toute manière. Si on vit notre foi, alors, en fait, il y a des contextes. C'est vrai qu'à l'époque, ces questions-là étaient parlées franchement. Là, il devait affirmer, c'était aussi des personnes qui avaient des missions bien particulières. Mais c'est vrai que nous, on doit également, au travers des échanges qu'on a avec notre entourage, prendre position pour ce que l'on croit, ce que l'on croit autrement. Mais bien entendu, il faut le faire dans un esprit que les gens puissent aussi aller vers la lumière et découvrir cette lumière. Mais en faisant ça, effectivement, on rencontre de l'opposition. Et ça, il faut quelque part. En fait, c'est un exemple aussi pour nous rappeler que mais peut-être que si on vit trop en ne voulant pas faire de vagues ou en n'affirmant rien, est-ce que voilà, quelle est la bonne attitude et quel est le bon équilibre à trouver quoi, en fait.
Il y a quand même un passage qui est clair dans la Bible, qui le dit, mais s'il vaut mieux plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes.
Ouais.
Vous savez que je crois que pour annoncer la vérité, c'est peut-être plus difficile que d'être
mal. Après, Hérode le faisait à eux. Enfin, Jean-Baptiste l'a fait avec sagesse, puisqu'il a développé une certaine relation avec Hérode.
Bien sûr.
Lui, il écoutait ce qu'il disait, donc c'est pas, il n'a pas débarqué comme ça.
C'est tout. Mais aussi la différence avec Hérode, Jean-Baptiste, lui, il a eu à le faire dans un contexte où il avait la possibilité de rencontrer le roi. Des chrétiens de du Nouveau Testament, ils n'avaient pas forcément ce privilège-là, mais selon ce que Jésus leur envoie, c'est dans le contexte où ils sont envoyés, là où ils sont. Ils auront de l'opposition quand même si ce n'est pas du même style. Mais s'ils sont fidèles à la parole, ils ont quand même de l'opposition. Donc, ça rejoint nous aussi. On ne sera pas tous devant la télé en train de dire. Mais dans le contexte où on est, où le Seigneur nous envoie, on est censé être cohérent avec la parole et peut-être on aura de l'opposition.
C'est ça. Et je pense qu'il ne faut pas y aller avec une attitude de jugement, ce qui serait en fait. Plus du tout en accord avec ce que dit la parole. C'est en fait. Il faut trouver les bons équilibres en voulant éclairer les gens par ce que l'on croit être la vérité, mais ne pas leur tomber dessus pour des questions de mœurs, en fait. Et parce que faire ça, je pense que c'est contre-productif. Et effectivement, à chaque fois, on voit que ce soit Jean-Baptiste ou même les autres apôtres avaient toujours une manière d'expliquer les choses. Quand Pierre dit il vaut mieux plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes, c'est parce qu'il avait des retours, des réponses, et en fait, il adapte son discours pour expliquer pourquoi est-ce qu'il leur dit ça, en fait.
Je vais juste rajouter un truc, c'est que, en fait, j'ai l'impression qu'Hérode avait accepté ce jugement par rapport à ce que lui avait dit Jean-Baptiste. Mais en fait, dans le texte, c'est pas vraiment Hérode qui est contre Jean-Baptiste, c'est Hérodiade, oui. C'est la femme qui est furieuse, quoi. C'est pas.
C'est ça.
Là où il faut faire attention à l'alcool, hein, parce que j'étais dans un état alcoolisé.
Oui.
Il était, je pense, il n'était pas maître de lui-même quand il a prononcé des phrases qu'il n'aurait jamais dû prononcer. Oui. Je te donnerais même la moitié de mon royaume.
Et en même temps, Jean-Baptiste avait prophétisé que dans le, j'ai relu le verset de Jean 3, verset 30. Il faut qu'il grandisse et que je diminue. Mmh. Donc il fallait que Jean-Baptiste s'efface de toute façon.
Oui, bon. C'était prophétique. Ouais.
Encore un exemple, effectivement, ouais. du modèle,
du modèle du
disciple,
ouais.
qu'a été Jean-Baptiste. Alors, quelques enseignements et applications, je dirais un peu comme ça. Savoir, du coup, se contenter du minimum pour la mission du Seigneur, c'est-à-dire savoir dépendre de lui et ne pas toujours attendre d'avoir des choses vraiment nickel sur les rails pour pouvoir s'engager, c'est-à-dire qu'il faut faire confiance au Seigneur pour la mission. Suis-je prêt à accepter l'opposition, à tenir ferme lorsqu'elle se présente? Voilà, ça faisait partie des enseignements et applications dont il y a question, c'est à réfléchir, à méditer. Ai-je bien intégré que ma vie de disciple me mènera aussi peut-être à vivre et à subir des souffrances? Et voilà, et l'exemple de Jean-Baptiste, même si lui avait une mission particulière, mais qui peut aussi, dans sa détermination et dans sa façon d'accomplir sa mission, est aussi un modèle et un exemple. Alors là, je suis un peu inquiet parce qu'il est 19h57 et qu'on a un dernier point à voir. Je ne sais pas, soit on le garde pour la prochaine fois. Moi, je pense que j'en ai pour à peu près 10 minutes. Donc, qu'est-ce qu'on fait?
On
termine. Allez, tu peux partir. Allez, on le fait. Je vais essayer de le passer. Donc, on va le lire. Marc 6, verset 7 à 32. Pardon. Non, c'est pas ça. C'est Marc 6,
33-44.
Beaucoup de gens les virent s'en aller et le reconnurent. Les villes, on les courut à pied et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour ceux pour qui il était comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà bien tardive, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: cet endroit est désert et il est déjà tard. Envoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. Jésus leur répondit: donnez-leur vous-même à manger. Et lui dire, faut-il aller acheter des pains pour 200 pièces d'argent ou leur donner à manger? Il leur dit, combien de pains avez-vous? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Alors il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangée de 100 et de 50.
Il prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux vers le ciel et les rendit une grâce. Puis il remplit le pain et le donna aux disciples, afin qu'il les distribue à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on apporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ceux qui restaient des poissons. Ceux qui avaient mangé le pain étaient 5000 hommes.
Voilà, donc on a deux récits de multiplication des pains dans les évangiles. Ça, c'est le premier, qui est repris d'ailleurs dans l'évangile, celui-ci. Donc on voit que Jésus et les disciples, alors je vais essayer de de passer sur, enfin, de focaliser sur les choses, les points importants. Jésus et les disciples veulent se mettre à l'écart, hein. Ils ont besoin de se reposer. Après le ministère qu'ils ont eu, entre guillemets, en binôme. Et donc, la foule les a repérés. Et la foule, en fait, est en train d'observer le cheminement de la barque pour arriver, pour deviner, en fait, où est-ce qu'ils vont atterrir et pour être là au moment où ils arrivent. Alors, la barque fait un tracé droit où ils doivent contourner par les mers, donc c'est plus long. Mais pourtant, il y en a qui sont déjà là au moment où la barque arrive. Peut-être le plus jeune qui arrivait à courir. Et au lieu de s'agacer de ça, Jésus est ému par la foule. Il discerne vraiment les besoins intenses de ces gens. En fait, pourquoi est-ce qu'ils sont là? Parce qu'ils sont affamés spirituellement. Ils ne viennent pas pour manger physiquement, puisqu'ils ne se doutent pas de ce qui va se passer. Mais ils viennent pour être vraiment encore dans cette présence du Seigneur, pour l'écouter à nouveau, et pour être enseignés par celui qui comble leur cœur de toutes ces vérités qu'ils ont besoin d'entendre. Nous avons lu verset 34, le Seigneur les voit comme un troupeau qui n'a pas de berger. Donc il va commencer par les enseigner spirituellement. Et je pense que si le Seigneur est ému de compassion envers cette foule, c'est parce qu'ils viennent dans la bonne attitude. Sinon, le Seigneur sait dire les choses lorsque les choses ne sont pas faites avec les bonnes intentions. Donc, si le Seigneur est vraiment attendri, c'est que là, il y a un échange qui est sain entre lui et la foule qui est vraiment là pour l'écouter et pas pour profiter. Alors, on peut s'arrêter sur cette attitude, hein, se questionner. Est-ce que nous avons aussi cette même fin spirituelle? Est-ce que nous sommes prêts à suivre, à poursuivre même le Seigneur, à le devancer et à ne pas craindre de l'accompagner dans des destinations hostiles où il n'y a rien d'autre que lui? Parce qu'en fait, là, ils sont dans un désert. Il n'y a rien. Est-ce que je prends les devants pour aller à son contact? Ou est-ce que c'est lui qui doit venir me chercher dans mon intimité personnelle? Ça, c'est une première question. On voit qu'il commence à se faire tard, et là, je vais passer un peu vite, mais c'est vrai que c'est quand même intéressant, toute cette réaction des disciples, hein, qui se sentent plus responsables de cette foule. Donc ça, c'est bien. Et ils se disent, comment on va gérer, là, il se fait tard, il faudrait que le Seigneur les renvoie tout le monde, parce qu'il faut qu'ils aillent se restaurer. Donc là, le Seigneur leur dit, nourrissez-les vous-même. Donc là, ils sont scotchés, ça se tend un peu. On voit qu'ils sont sur des œufs, quoi, hein. Ils vont vérifier combien ils ont du poisson, quand ils demandent, ils sont sur un terrain un peu piégeux parce qu'ils se doutent que quelque chose va se passer. Et donc, le Seigneur va donc faire ce miracle incroyable, nourrir cette foule de 5000 hommes. Donc ça fait évidemment beaucoup plus de personnes parce qu'il y a les femmes et les enfants en plus. Il faut bien, on voit bien, en fait, Marc, il parle de tous les restes qui sont emportés. Et les restes, ils sont plus nombreux que ce qu'il y avait au départ, les 5 pains et les 2 poissons. Donc, tout ça, c'est vraiment pour expliquer que c'est pas, en fait, une fable, c'est pas une allégorie qui s'est passée. C'est vraiment un repas. Le Seigneur a vraiment multiplié physiquement la nourriture. Donc, ça nous prouve, une fois de plus, la divinité de Jésus, son autorité, son pouvoir sur la matière, et ça va aussi certainement plus loin parce que, pour terminer, on peut voir ces passerelles qu'on peut faire avec l'Ancien Testament. En fait, au travers de ce qui s'est passé, on voit déjà que le Seigneur a disposé cette foule qui est éparpillée. Tout d'un coup, il vient l'organiser, l'ordonner par Roger de 100 et de 50. Ça nous rappelle ce qui se passait dans l'Ancien Testament à l'organisation des tribus. Ça, c'est dans Deutéronome, vous pourrez le lire. Ensuite, on peut faire un lien entre Jésus et Moïse. Déjà parce que Jésus leur donne le pain, du pain, il multiplie le pain. Et bien sûr, on peut faire le lien avec la manne, hein, dans l'Ancien Testament. Mais on peut lire Nombre 27, 15 à 17, où en fait, lorsque le Seigneur dit qu'il voit cette foule comme un troupeau qui n'a pas de berger, là, on peut faire un lien avec Moïse. Disons, Nombre 27, versets 15 à 17.
Moïse parla à l'Éternel et dit : Que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger.
Voilà. Donc là, c'est Moïse qui va être enlevé aussi, enfin, qui va mourir. Et donc, il est question de susciter quelqu'un pour que le peuple ne soit pas sans berger. Parce que Moïse a été donc un berger du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Et donc, ici, on voit qu'il peut y avoir ce lien qui est fait. Josué aura été ce nouveau berger, mais Josué était imparfait. Et donc, Jésus qui vient, lui est le vrai berger, qui prend en charge ce troupeau qu'il a devant lui. On peut voir aussi un lien avec Élisée dans 2 Rois 4, versets 42 à 44, un lien intéressant.
À cette époque, un homme vint de Baal-Shalisha. Il apporta des vivres à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et de blé nouveau dans son sac, comme premier produit de la nouvelle récolte. Élisée dit à son serviteur : Partage ces vivres entre tout le monde et qu'ils mangent. Celui-ci répondit : Comment pourrais-je nourrir 100 personnes avec cela ? Mais Élisée répéta : Partage ces vivres entre tous et qu'ils mangent, car l'Éternel déclare : Chacun mangera sa faim. Et il y aura même des restes. Le serviteur distribua les pains à tout le monde, ils mangèrent, et il y eut effectivement des restes, comme l'Éternel l'avait annoncé.
Voilà, donc là on fait aussi ce lien, hein, Jésus qui nourrit cette foule, et qui prouve aussi que c'est Jésus et l'Éternel, puisqu'il a le pouvoir, la capacité de presque rien, de nourrir cette foule. Et puis, ça, vous pourrez le regarder peut-être tranquillement à la maison. On disait Ézéchiel 34, tout le chapitre, en fait, nous montre aussi que David est le berger du troupeau. En fait, c'est le David qui est la préfiguration de Jésus. Et on a quand même des versets qui sont bien, je voudrais quand même en lire quelques-uns. Ézéchiel. C'est le 34. Alors j'ai dit sur les 1 à 3. Voilà, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots : Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël, prophétise et dis-leur, et dis aux pasteurs : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se plaisent eux-mêmes. Les pasteurs ne doivent-ils pas perdre le troupeau ? Vous mangez de la graisse, vous vous êtes vêtus avec de la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Et donc il y a tout un rapport entre les brebis maigres et les brebis grasses. Et ça, on peut penser aussi avec le festin qu'a fait Hérode, hein, dont Jean parlait juste avant. Voilà, lui c'était celui qui aurait dû paître le troupeau, mais voilà, c'est Jésus qui vient vraiment incarner cela. Et on le voit, notamment 22, verset 22-24. Je porterai secours à mes brebis afin qu'elles ne soient plus au pillage. Je jugerai entre les brebis et brebis. J'établirai sur elles un pasteur qui les fera paître. Mon serviteur David qui les fera paître, il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi, j'ai parlé. Enfin, voilà. Donc il y a tout ce rapport entre David. Et qui montre aussi là que ce passage est en train de s'accomplir. Et puis, pour terminer, il y a un petit détail. Marc, c'est le seul qui parle de l'herbe. Il est fait asseoir sur l'herbe verte. Et ça montre déjà que c'est une scène qui va se passer au printemps. Et ça peut faire aussi allusion au psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Donc là aussi, encore une fois, ce passage nous montre tout ce qu'incarne Jésus. Et qu'il est l'accomplissement vraiment de tout ce qui a été dit dans les Écritures. Une dernière phrase pour conclure ces deux mardis. L'idée générale de ce que nous avons parcouru, c'est que peu importe où nous sommes, dans une tempête où on est en péril, face à l'impureté, face à la mort, face à la persécution, ou même dans un désert, à partir du moment où Jésus est là, mais nous avons tout et nous n'avons besoin de rien d'autre. C'est ce qu'on a pu voir au travers de ces passages. Marc vraiment s'emploie à nous faire comprendre ça. Et c'est vraiment ce qu'on peut retenir et vraiment de savoir qu'on peut craindre, on peut avoir peur à certains moments, mais que vraiment la foi soit au-dessus parce qu'on sait que Jésus est avec nous. Voilà, donc on a terminé cette partie-là. Et puis on enchaînera le mois prochain avec un aussitôt encore. Continuer dans ce récit de Marc qui est très dynamique et très intéressant et très riche. Voilà, certains le considèrent comme un récit un peu simple, mais en fait il y a plein de choses. Et c'est vraiment une source riche à méditer. Alors je ne vais pas demander, on pourra discuter après si vous avez des questions, mais on va terminer, on va conclure par la prière. Est-ce que peut-être Jean-Philippe, tu veux prier, s'il te plaît?
Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as fait des choses extraordinaires, Seigneur. Mais il n'y a pas que les choses visibles, Seigneur. Il y a tout ce que tu nous dis à travers toutes tes actions. Toutes tes œuvres, Seigneur, ont non seulement une portée physique, mais aussi un enseignement aussi. Et nous le comprenons, Seigneur, à travers ta parole, à travers ce que ton serviteur Benjamin a développé. Et nous comprenons, Seigneur, à quel point tu veux nous enseigner les profondeurs, Seigneur, de ce que tu attends de nous. Oui, Seigneur, c'est un attachement, Seigneur. C'est vraiment un engagement, Seigneur, sans peur, sans crainte, avec foi. Nous approcher de toi, Seigneur, avec confiance, Seigneur, mon Dieu. Oui, conduis-nous encore, guide-nous, Seigneur, dans le fait de cultiver encore cette parole et que nous puissions ainsi continuer à manger, Seigneur, cette parole. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
Amen.